vous, Milan Berkmans, bonjour.
Bonjour François, bonjour à tous.
Et vos coulisses du pouvoir, Bertrand, et bonjour.
Mais bonjour.
Ce qui vous a surpris dans le discours, en résumé,
Cette démonstration de puissance qui fait penser à une doctrine politique qui s'appelle le césarisme. Je vais vous en parler.
On va analyser tout cela avec vous dans quelques minutes. Mais tout d'abord, donc, la presse avec vous, Milan Berkmans. Et sans surprise, hein, ce matin, cette prestation de serment de Donald Trump qui fait la une de tous les quotidiens. C'est quasiment la même photo partout, hein, ce matin, Milan.
Ouais, cette photo avec la main droite hein, levée, les doigts vers le ciel, devant une Bible tendue par sa femme, Melania, l'air impartial. Donald Trump a prêté serment ce lundi 20 janvier, donc, après avoir titré « Jour Capitole » hier, le journal français Libération parle de paix Capitole ce matin, un retour au pouvoir en forme de condamnation. Libération qui voit dans son discours l'annonce d'une violence extrême pour son deuxième mandat. Donald Trump promet un nouvel âge d'or. Le cauchemar recommence, écrit le quotidien français.
Ouais, Melania Trump qui était cachée par un large chapeau noir.
On la reconnaît à peine. Hein.
Voilà, et le journal Le Soir dit même qu'elle avait des allures de tueuse à gage avec cet accoutrement. Un nouvel âge d'or donc, mais aussi un nouvel ordre mondial.
Ou plutôt selon les mots utilisés par Béatrice Delvaux dans Le Soir ce matin, un nouvel ordre du monde tourné vers un seul et unique objectif, le fameux America First. Les intérêts de l'Amérique avant tout, pas une grande nouveauté, non, mais cette fois, pour son deuxième mandat, Donald Trump va se donner les moyens de ses ambitions, écrit l'éditorialiste, avec une politique qui s'annonce déjà comme ultra agressive. Des déportations massives d'immigrés, la fermeture de frontières extérieures, la fin des politiques de diversité, la reprise des forages pétroliers et gaziers et une liberté d'expression sans aucune limite. Mais ce nouvel ordre du monde, lit-on dans Le Soir, il était surtout visible derrière la famille Trump, hier au deuxième rang, une rangée de personnalités qui a concentré une grande partie de l'attention, celle des géants de la tech, les hommes les plus riches du monde, les patrons de Facebook, Amazon, OpenAI et SpaceX, eux aussi prenaient le pouvoir hier, cette cérémonie, c'était aussi un peu leur consécration, explique Le Soir qui conclut « Trump is back et le monde n'a qu'à bien se tenir ».
Et ce message, il s'adresse aussi à ceux qui n'ont pas été nommés dans le discours de Donald Trump.
Oui, à côté des migrants ou des personnes transgenres qui font l'objet d'attaques directes, d'autres sujets n'ont pas été directement évoqués. C'est le cas, par exemple, de l'Europe. Évidemment, la presse belge se questionne ce matin quelle forme prendra la nouvelle relation entre l'Europe et les États-Unis. Les deux partenaires historiques seront-ils toujours des alliés? Pour le journal L'Écho, la réponse est claire, c'est non. Donald Trump sera au mieux un partenaire vociférant, au pire un adversaire menaçant, mais il ne doit pas écrire tout seul la saison 2 de son autofiction, écrit l'éditorialiste de L'Écho. L'Union européenne doit jouer sur son marché, fort de 450 millions de consommateurs, pour jouer un rôle dans ce deuxième mandat et ne pas courber les Chines en répondant aux sanctions tarifaires par des sanctions du même type, en nouant des relations plus étroites avec les autres États désarçonnés par les nouvelles manières américaines, le Mexique par exemple, mais aussi le Canada, le Japon ou la Corée du Sud, de quoi rendre l'Europe elle aussi great again.
Et puis dans la presse, il y a aussi les petits détails, les polémiques, les ratés lors de cette cérémonie. La presse qui en relève trois ce matin, Milan.
Oui, le premier, c'est l'invité glamour de cette investiture, on en a déjà parlé, le grand chapeau noir de la nouvelle première dame, Melania Trump. Dans la DH, on relève l'élégance froide de la femme de Donald qui donne des airs d'enterrement à cette cérémonie. Un couvre-chef qui prend de la place hein, et qui a valu un moment de solitude au président américain qui s'est retrouvé dans le vide au moment d'essayer d'embrasser sa femme. Ensuite, il y a les cœurs envoyés par Elon Musk avec ses mains au public, interprétés par certains sur les réseaux sociaux comme un salut nazi. Et enfin, il y a le principal malaise de la cérémonie. Vous l'avez certainement vécu si vous avez suivi l'investiture en direct hier, lorsque la chanteuse de country Carrie Underwood a longuement attendu la bande sonore qui devait accompagner son America the Beautiful, de longues minutes conclues par un chant finalement a cappella. Alors selon Le Soir, elle a demandé au public de chanter avec elle, finalement comme si elle avait, je cite, un fusil sur la tempe.
Bon, et sur ce salut de Elon Musk, Milan Berkmans, qui ressemble à un salut hitlérien, Michael nous demande ce matin sur WhatsApp, est-ce un fake ou n'est-ce pas récent? Est-ce qu'il a vraiment fait ce salut hitlérien? Alors, il a fait ce salut deux fois, effectivement, mais il dit ce matin, Elon Musk lui-même, sur son réseau X, que comparer tout le monde à Hitler, ça devient fatigant. Voilà sa réponse. On ne peut pas en dire plus à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Milan Berkmans, pour cette revue de la presse. Vos coulisses du pouvoir, donc, Bertrand, et on revient, hein, effectivement, sur l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui était l'occasion d'une mise en scène de la puissance politique du nouveau président américain. Bertrand, la multiplication des décisions qui visent à instaurer le narratif d'un pouvoir fort. Trump, c'est la question que vous posez ce matin, Bertrand, est-il un nouveau César?
Et oui, en théorie politique, on parle de césarisme, je ne sais pas si vous connaissez le mot. pour qualifier un régime politique inspiré de Jules César, c'est-à-dire un pouvoir concentré aux mains d'un homme fort, bon ça, on voit tous Jules César, charismatique, mais, et c'est important, qui prétend pour imposer son pouvoir, s'appuyer sur le peuple contre les élites pour dominer. L'expression, en fait, ne remonte pas à Jules César, mais à Napoléon III. Au milieu du 19e siècle, Charles-Louis Napoléon Bonaparte, empereur des Français, adorait se comparer au dictateur de la Rome antique, Jules César. Son pouvoir est concentré, mais issu d'une élection, la première d'ailleurs, au suffrage universel masculin en France, celle de 1848. Auréolé de ce plébiscite populaire, il méprise allègrement les contre-pouvoirs, les corps intermédiaires de cette jeune Deuxième République, l'Assemblée nationale, les partis, la presse, les juges, tout ce qui vient altérer la ligne directe entre lui et le peuple. Il s'autoproclame sauveur de la nation, liquide la Deuxième République, instaure le Second Empire en usant habilement à la fois du coup d'État et de l'élection populaire. L'histoire dira si Donald Trump emprunte cette voie de la dictature par le plébiscite ou s'il ne fait qu'embrasser un style en réalité, celui du sauveur de la nation au pouvoir fort, mais sans aller jusqu'au bout du césarisme, c'est-à-dire, il faut le dire, de la dictature.
Ouais. Ce qui frappe aussi Bertrand, c'est que les causes à l'origine du césarisme sont peut-être les mêmes qu'aujourd'hui.
Oui, dans une analyse pénétrante, l'intellectuel communiste italien Antonio Gramsci expliquait que le césarisme provenait, selon lui, d'une crise d'autorité et d'une crise de la représentation. Vous voyez, c'est pas nouveau lorsque des groupes sociaux ne se reconnaissent plus, expliquait-il, dans les partis politiques. Or, cette crise de l'autorité est à l'œuvre dans la plupart des démocraties. La méfiance dans les partis, il suffit de regarder les grandes enquêtes, est à son plus haut un peu partout. L'expérience de l'impuissance politique face, par exemple, au dérèglement climatique, à l'immigration, à la mondialisation, aux inégalités, suscite un peu partout une forme d'anxiété ou d'angoisse du déclin dans les populations. Le discours de Trump hier est à cet égard une forme de réponse à ces impuissances. Il n'y a plus d'impuissance face au climat, puisqu'il n'y a plus de problème de climat. On sort de l'accord de Paris et on relance le fossile. Il n'y a plus d'impuissance face à l'immigration, puisqu'on envoie l'armée à la frontière et qu'on organise des expulsions. Il n'y a plus d'impuissance face à l'évolution des mœurs, puisqu'il n'y a plus désormais que des hommes et des femmes. Il n'y a plus d'impuissance face à la mondialisation, puisqu'on impose des droits de douane massifs.
Démonstration de puissance, donc Bertrand, qui va servir de laboratoire à l'échelle mondiale.
Oui, car il y a une impuissance qui est souvent citée dans les enquêtes d'opinion et à laquelle Trump ne répond pas, ça va être intéressant, c'est la montée des inégalités. Le fait qu'il soit entouré hier des plus grandes fortunes de la planète est à cet égard très instructif. L'autre limite de ce césarisme est évidemment intrinsèque au césarisme même et avait été admirablement résumé par le futur président du Conseil le républicain Georges Clemenceau en France. Rendez à César ce qui est à César. Et tout est à César, la concentration des pouvoirs risque de mécontenter une partie des groupes sociaux aux États-Unis, peut-être susciter le chaos, en tout cas des tensions, du désordre. Et c'est ce qui s'était passé en France, en fait, après l'expérience de Charles-Louis Napoléon Bonaparte, cette expérience césariste du Deuxième Empire qui a vu s'instaurer la Troisième République et, en fait, la démocratie ou l'expérience démocratique la plus stable en France, celle de la Troisième République, parce que en fait, il n'y a pas un peuple, mais des peuples, et qu'à un moment donné, le César, il doit composer avec une population qui est beaucoup plus compliquée que ce qu'il fantasme.
Du césarisme au trumpisme, c'était vos coulisses du pouvoir, Bertrand.